J'ai une très bonne question pour vous. Quel est le plus grand événement historique de toute la Terre? La parole de Dieu va nous révéler la réponse dans toute sa clarté, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a quelques questions qui pourraient vous sembler bien banales, mais je crois que les réponses que la Bible va nous donner vont se révéler très enrichissantes pour chacun de nous. Voici les questions. Quel est l'événement historique le plus important de toute la Terre? Quel est le cœur de la foi chrétienne? Comment pouvons-nous être certains que Jésus nous aime? Est-ce que le Seigneur doit utiliser de grandes choses pour convaincre le cœur des hommes qu'il est vivant? À qui Jésus se révèle-t-il? Pouvons-nous dissocier l'amour d'avec la foi? Restez avec nous. Je suis certaine que les réponses que le Seigneur va nous donner, par la bouche du pasteur Régent Joly, vont produire un grand changement dans nos cœurs, parce que les Saintes Écritures produisent constamment des changements dans la vie de ceux qui croient. Mais premièrement, prions. Seigneur, on sait que ta parole a le pouvoir de nous transformer, de changer des choses dans notre vie. Et on te demande de le faire aujourd'hui toi-même, par tes saintes écritures, par l'enseignement que tu vas nous donner par la bouche de ton serviteur. Parle-nous, Seigneur, transforme-nous. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Pilate a accepté que Jésus soit crucifié afin de protéger sa carrière politique contre des accusations possibles des Juifs. Pourtant, Pilate savait que Jésus était innocent. Jésus fut donc crucifié et sur la croix, il demanda à Jean de s'occuper de Marie, sa mère. Nous avons vu qu'aux yeux de Dieu, la mort du Seigneur Jésus à la croix est une propitiation. Aux yeux du Seigneur Jésus, elle est un sacrifice d'expiation. Aux yeux des croyants, elle est une substitution. Pour Satan, un petit triomphe devient une défaite éternelle. Pour le monde, elle n'est qu'une injustice grave. La crucifixion du Seigneur Jésus est l'événement historique le plus important de la Terre. Il permet aux millions de personnes qui ont cru en Jésus d'avoir la vie éternelle. Elle permet la réconciliation entre Dieu et les hommes. Nous sommes devant les faits historiques de l'Évangile. Quels sont ces faits? Paul les a définis pour nous. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Voilà les faits de l'Évangile. Notre salut est fondé sur la confiance que nous mettons en eux, ainsi que sur la personne de Jésus-Christ. Faites-vous confiance au Seigneur Jésus? Faites-vous confiance à ce qu'il a fait pour vous en mourant à la croix? Croyez-vous qu'il a subi la mort que vous méritiez, qu'il s'est substitué à vous pour prendre votre châtiment et qu'il a donné sa vie en rançon pour la vôtre? Chers amis, poursuivons notre lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 19, versets 38 à 40. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Dieu suscite des personnes au moment venu. Les deux hommes qui se sont occupés du corps de Jésus étaient des personnages importants. Joseph d'Arimathée était un homme riche, et Nicodème était le chef religieux juif qui est venu voir Jésus pendant la nuit. Ils étaient secrètement des disciples de Jésus. Maintenant, ils révèlent leur couleur pour la première fois. Ne les jugeons pas trop sévèrement. Maintenant que tous les disciples ont abandonné Jésus, ceux-ci se manifestent pour réclamer le corps de Jésus. Certains pensent que les enfants d'Israël ont perfectionné les techniques pour embaumer des Égyptiens. C'est possible, mais nous ne pouvons pas être dogmatiques sur ce point. L'enfant de Dieu de l'Ancien Testament, aussi bien que du Nouveau Testament, a toujours cru à la résurrection corporelle. Le corps est semé corruptible et il est ressuscité incorruptible. Il est semé en état de faiblesse et il est ressuscité en état de puissance. Ce sera un corps glorifié. C'est pourquoi l'enfant de Dieu a du respect pour le corps et qu'il l'embaume avec soin. La quantité d'aromates utilisée pour embaumer un corps correspondait environ à la moitié du poids du corps. Donc, Jésus devait peser environ 200 livres ou 90 kilogrammes. Le corps était frotté avec de la myrrhe et de l'aloès et enveloppé avec des bandes de tissu. Ceci scellait le corps et le protégeait de l'air. Une fois terminé, le corps ressemblait à une momie. Jean mentionne que le corps fut enveloppé avec des épices car ce détail revêt une grande importance. En effet, lorsque Jean a vu le tombeau le matin de la résurrection et qu'il a vu le linge formant un cocon vide, il a compris qu'une résurrection avait eu lieu et il a cru. Versets 41 et 42. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Les deux hommes ont dû se dépêcher car la Pâque approchait. Et il semble qu'il n'ait pas eu le temps d'embaumer complètement Jésus. C'est pourquoi les femmes ont dû se rendre au tombeau en apportant des aromates. Elles allaient terminer le travail entrepris par Joseph et Nicodème. La résurrection de Jésus-Christ est le cœur de la foi chrétienne. Ceci nous amène au chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. Ce chapitre nous raconte la résurrection du Seigneur Jésus. La résurrection de Jésus-Christ est le cœur de la foi chrétienne. Elle est si importante que quelqu'un ait dit à son sujet, « Nous ne pouvons pas trop parler de la mort de Jésus-Christ, mais nous pouvons ne pas suffisamment parler de sa résurrection. » Nos cantiques parlent souvent de la mort de Jésus et de son sang versé à la croix, mais dans certaines églises, nous ne parlons de la résurrection qu'à Pâques. Révisez les sermons du Nouveau Testament, en débutant par celui de la Pentecôte, et vous noterez que la résurrection est un thème qu'ils ont tous en commun. Débutons la lecture de l'Évangile de Jean chapitre 20, verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Le premier jour de la semaine, soit le dimanche, Marie de Magdala vient au tombeau. Quand est-ce que le jour du sabbat fut changé? Les personnes qui pensent que nous devrions observer le sabbat afin de nous reposer et d'adorer Dieu le samedi posent souvent cette question. Le changement se fit lorsque Jésus ressuscita d'entre les morts. Il était mort le jour du sabbat et il ressuscita le dimanche. Depuis, les croyants se sont toujours réunis le premier jour de la semaine. Le jour du sabbat appartient à l'ancienne alliance. Lorsque Dieu a terminé la création, il s'est reposé le jour du sabbat. Maintenant, nous sommes sous une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus. La Pentecôte s'est produite un dimanche, le premier jour de la semaine. Notez que Jean a souligné le fait que le Seigneur soit ressuscité le premier jour de la semaine. Voici la chronologie des événements le matin de la résurrection. Je résume une note de la Bible, Schofield. La synthèse des quatre évangiles montre que les événements se succédèrent vraisemblablement dans l'ordre suivant. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé se rendent au sépulcre de Jésus pour embaumer son corps. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus les suivent. Les trois femmes voient un ange rouler la pierre. Marie de Magdala se hâte de l'annoncer à Pierre et à Jean qui courent au sépulcre. Marie, mère de Jacques, entre dans le tombeau et voit les anges. Elle retourne vers les autres femmes qui les ont suivies avec les aromates. Entre-temps, Pierre et Jean, informés par Marie de Magdala, arrivent, regardent à l'intérieur du tombeau et repartent. Marie de Magdala revient au tombeau, voit les deux anges et ensuite Jésus, et repart alors qu'il lui demande de donner un message aux disciples. Marie, mère de Jacques, a rencontré les autres femmes apportant les aromates et revient avec elles. Elle voit les deux anges. Elles reçoivent aussi le message des anges, et alors qu'elles retournent vers les disciples, elles rencontrent Jésus. Le Seigneur avait chassé 7 démons de Marie de Magdala. Certains pensent qu'elle est la pécheresse qui avait lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Cela ne peut pas être prouvé. Cette femme de qualité était reconnaissante envers le Seigneur qui l'a guérie. Lorsqu'elle a vu que le corps n'était plus dans le tombeau, elle a averti immédiatement Pierre et Jean. Verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pouvez-vous dire que Jésus vous aime? » Le disciple que Jésus aimait est l'apôtre Jean. Il emploie cette expression en référant lui-même plutôt que son nom. Tous les disciples, sauf Judas, aurait pu utiliser ce titre. Vous pouvez aussi vous appliquer ce titre. Dans Jude, verset 21, nous lisons « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, parce que vous savez qu'il vous aime. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous aimer. La vérité, il vous aime. C'est merveilleux de pouvoir s'approprier le même titre que Jean, le disciple que Jésus aimait. Nous retrouvons Simon-Pierre et Jean ensemble. Il semble que Jean l'ait accueilli chez lui. Je me demande si les autres disciples ne se sont pas éloignés de Pierre en apprenant son reniement. Louons le Seigneur parce que Jean a accueilli Pierre alors qu'il avait un grand besoin d'un ami. Jean, le fils du tonnerre, est devenu l'apôtre de l'amour. N'est-ce pas merveilleux? Marie de Magdala ne s'attendait pas à la résurrection. Elle pensait que quelqu'un avait volé le corps du Seigneur. C'est intéressant, parce que plus tard, les chefs religieux ont accusé les disciples d'avoir caché le corps, mais Marie a premièrement pensé que les chefs l'avaient fait. Les chefs religieux aurait payé le prix afin de pouvoir exhiber le corps de Jésus ce dimanche-là. Versets 3 et 4. Pierre et d'autres disciples sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Simon-Pierre et Jean ne s'attendaient pas à la résurrection du Seigneur. Ils devaient penser que Marie avait mal vu dans l'obscurité. Elle a vu la pierre rouler, elle a eu peur, et elle est repartie en courant. Ou encore, elle est peut-être allée au mauvais tombeau. Donc, ils ont accouru au tombeau. Mes amis, vous n'allez pas au cimetière pour rencontrer une personne vivante. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer le Seigneur vivant en arrivant au tombeau. Ils s'attendaient à retrouver le corps du Seigneur. L'autre disciple était Jean. Il était jeune et pouvait courir plus vite que Pierre. Ceci appuie la tradition qui affirme que Jean était le plus jeune des disciples. Tous les groupes d'âge devaient être représentés parmi les disciples. Jean aurait pu être à peine sorti de l'adolescence. Verset 5. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Le Seigneur emploie de petites choses pour convaincre le cœur des hommes. Ce que Jean aperçut le convainquit que Jésus était ressuscité. Il est arrivé le premier, mais par respect et par réticence, il n'entra pas dans le tombeau. Il se baissa et regarda par l'ouverture. Il vit la preuve convaincante. Il est étonnant de voir que le Seigneur emploie de petites choses pour convaincre le cœur des hommes. Quelqu'un a déjà dit, « Une grande porte pivote sur des petites pentures. » Jean vit le linge de lin dans le sépulcre, mais le corps n'était plus. Verset 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Ensuite, c'est Pierre qui arrive, tout essoufflé. Il a dû trouver la course plus difficile. Cependant, il n'était pas réticent à pénétrer dans le sépulcre, et il le fit. Rappelez-vous que Joseph et Nicodème avaient enveloppé le corps dans des bandes de linge scellées avec les aromates. Les aromates agissaient comme une colle, donc un cocon avait été formé autour du corps de Jésus. Il était impossible de sortir un corps de cela sans dérouler le linge. Pourtant, cela avait été fait. Jésus-Christ est sorti du tombeau comme une graine sort de la terre. Jésus avait dit qu'un grain ne produisait rien à moins de mourir. Lorsque le grain meurt, une nouvelle plante sort de terre. Cependant, l'écaille de la graine est toujours dans la terre. Jésus n'était plus dans le cocon formé par les bandes et les aromates. Il était vivant. Rappelez-vous la résurrection de Lazare. Lorsque celui-ci est sorti du sépulcre, il était enveloppé des linges et Jésus a demandé qu'on le délie. Lazare est mort de nouveau par la suite. Mais Jésus est ressuscité avec un corps glorifié qui ne verra jamais la mort. C'est cela la véritable résurrection. Versets 7 et 8. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Le mot « plié » ne rend pas le sens exact du terme grec dans le texte original. Il peut se traduire « rouler ». Le linge qui enveloppait la tête de Jésus est aussi demeuré comme un cocon vide. C'est ce qui a convaincu Pierre que le Seigneur était ressuscité. Notre texte français ne rend pas le sens exact du texte grec. Trois mots grecs différents sont traduits pour voir dans le texte français, ce qui nous empêche de voir les nuances exprimées par les mots grecs. Au verset 5, lorsque Jean se baisse pour regarder dans le sépulcre, le mot « voir » signifie « percevoir » et « comprendre ». Cela implique un examen afin de comprendre. Lorsque Pierre entra dans le tombeau et vit, c'est le mot « théamai » qui est employé. Le mot « théâtre » vient de ce mot grec. Pierre a simplement regardé ou vu. Au verset 8, lorsque Jean entre à son tour, le mot « voir » signifie « savoir ». Jean a compris et cru avant de voir le Seigneur ressuscité. Versets 9 et 10. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Jean affirme une chose étonnante. Les disciples n'avaient pas compris que Jésus devait ressusciter même s'il l'avait annoncé à plusieurs reprises et que la résurrection était prophétisée dans l'Ancien Testament. Même aujourd'hui, nous devons interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. L'Ancien Testament n'est pas si populaire parce que trop souvent, nous ne l'interprétons pas à la lumière du Nouveau Testament. De nombreuses personnes lisent la Bible aujourd'hui, mais ignorent certains passages. Il y a deux raisons pour cet état de choses. Premièrement, nous pouvons lire le même passage à plusieurs reprises et y découvrir des choses qui nous avaient échappé auparavant. Le Saint-Esprit nous éclaire davantage chaque fois que nous relisons un texte. Deuxièmement, je pense que nous devons vivre certaines expériences spirituelles avant de comprendre certains versets. Les épreuves, les souffrances et les expériences de la vie nous les expliquent. Par exemple, lorsque David a écrit que le Seigneur est son berger, il le savait par expérience. Dieu l'avait souvent guidé et protégé. Jésus se révèle à ceux qui le cherchent. Oui, chers amis, il semble que Jésus soit apparu à Marie en premier. il y eut 11 apparitions avant son ascension et 3 après celle-ci. Il est fort probable qu'il y en a eu d'autres qui ne sont pas rapportés dans la Bible. Il y a un proverbe pour chaque situation. À ceux qui se demandent pourquoi le Seigneur Jésus est apparu à Marie en premier, je cite Proverbe 8, verset 17. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Très tôt le matin, elle cherchait Jésus. Versets 11 à 15. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » L'amour doit aller de pair avec la foi. Encore une fois, nous voyons une personne qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus. Comme les autres, elle ne croyait pas qu'il était ressuscité des morts. L'incrédulité aveugle et rend muet, comme Zacharie devint muet, pour ne pas avoir cru l'ange qui lui a annoncé que son épouse aurait un fils. Marie aimait Jésus, mais l'amour doit aller de pair avec la foi. Elle pleure parce qu'elle aime Jésus et parce qu'elle n'a pas la foi. Verset 16. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Lorsqu'il prononça son nom, elle reconnut la façon de Jésus de l'appeler par son nom. Si nous sommes décédés au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ, il nous appellera par notre nom pour nous ressusciter, comme il l'a fait pour ceux qu'il a ressuscités. Verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le Seigneur a demandé à Marie de ne pas le toucher. Le mot traduit toucher est aptomai, et il signifie s'accrocher à. Plus tard, il a invité les disciples à le toucher. Qu'y avait-il de différent? Il dit à Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est pourquoi Marie ne doit pas le toucher. Donc, il semble qu'il soit monté vers son Père avant d'apparaître aux disciples. Notez une distinction dans les paroles du Seigneur Jésus. « Vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » La relation entre Jésus et le Père céleste est différente de celle que nous avons avec ce Père. Nous devenons fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ seul, alors que Jésus-Christ est une personne de la Trinité, le Fils éternel de Dieu. C'est la distinction qu'il fait ici. Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Marie croit maintenant. Elle a la foi et elle aime plus que jamais. Elle n'est plus muette et proclame la gloire du Seigneur Jésus. Et toi, as-tu placé ta foi, ton entière confiance en Jésus seul? Préparons-nous pour la prochaine émission. Jean chapitre 20, verset 19 à 31.
Oh, merci beaucoup, Régent. Mes amis, avez-vous déjà essayé de vous mettre à la place de Marie pendant quelques instants? Cette Marie qui se tenait dehors près du sépulcre et qui pleurait avant de réaliser que Jésus était ressuscité. J'aurais aimé être à sa place quand elle s'est retournée et qu'elle a vu Jésus debout sans savoir que c'était lui. Et quand Jésus lui a dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier, mais ensuite, c'est ici que j'aurais aimé être à sa place. Jésus lui a dit « Marie ». Puis c'est alors qu'elle s'est retournée et qu'elle lui a dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Je dis que j'aurais aimé être à sa place, mais à bien y penser, je l'ai été il y a plusieurs années quand je suis née de nouveau. Dans un de mes chants intitulé « Mon héros », je parle au Seigneur Jésus et je lui dis « Tu m'es apparu sous la forme d'un jardinier ». Pour moi, puisque Jésus est apparu à Marie sous la forme d'un jardinier, je pense qu'aujourd'hui, il apparaît aux gens sous toutes sortes de formes, comme celle d'un jardinier. Pour ma part, la personne qui m'a fait connaître le Seigneur Jésus était une femme au foyer, qui prenait bien soin de ses deux enfants, qui était fidèle à son mari. C'était elle, mon jardinier. Pour d'autres, c'est un compagnon de travail ou de classe, ou bien un voisin, ou un parent, un ami. Ce ne sont pas tous des jardiniers, mais ce sont tous des personnes en qui Jésus vit par son esprit, depuis le jour où ils l'ont accepté comme sauveur, comme Seigneur. Mon ami, j'aimerais être ton jardinier, ta jardinière, en ce moment. Jésus vit en moi, et il veut vivre en toi. C'est comme ça que le Seigneur se présente aux gens de nos jours. Avant de remonter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tu peux lire ça dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, au verset 8. Eh bien, Jésus est rendu aux extrémités de la terre aujourd'hui. Et à travers moi, en ce moment, il s'adresse à toi et il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. » Mon ami, ouvre la porte de ton cœur et laisse Jésus entrer. Reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu as besoin de recevoir gratuitement le don de la vie éternelle qu'il a payé pour toi à la croix. Il a payé cher, il a souffert. Lui qui avait jamais péché, il est venu souffrir pour toi. Il est venu mourir pour toi, pour moi. Il frappe à la porte de ton cœur. Laisse-le entrer. Demain va peut-être être trop tard. Tu peux devenir un enfant de Dieu aujourd'hui même. Reçois-le et tu seras à lui éternellement.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.